נעשה ונשמע אמרו כאחד.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. L'actualité, c'est évidemment la fête de Shavuot, le don de la Torah. Pour nous en parler aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir, je crois que c'est pour l'une des premières fois ici à la radio, en tout cas en tant que rabbin, Rabbin Gatzweig, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'office Veler, l'office des jeunes, qui est juste à côté d'ailleurs de la radio, et vous êtes également superviseur de la Kashrout auprès du Beit Din du Bas-Rhin et de Strasbourg. Merci d'être avec nous. Un petit mot sur votre installation, tout se passe bien à Veiler ?
Eh bien écoutez, depuis début septembre, on a été accueillis dans ce magnifique bâtiment, de manière incroyable, par toutes les strates du bâtiment, et on est très heureux d'avoir rejoint l'aventure. Et on a été très bien accueillis, et tout se passe très bien depuis septembre. Et spécialement avec l'office Veiler, ça se passe magnifiquement. Et d'être vos voisins, c'est une chance inouïe.
Merci beaucoup. Shavuot, ça veut dire quoi Shavuot? Ça veut dire dans la Torah, c'est une tradition.
Alors Shavuot, en fait, la fête de Shavuot, elle porte trois noms. Shavuot, ça veut dire des semaines. La fête de Shavuot s'appelle aussi la fête de Hatseret, la fin. Et la fête de Shavuot s'appelle Yom HaBikurim, le jour des prémices. Et donc cette fête, elle revêt un petit peu plusieurs idéaux. C'est en fin de compte la fin du conte du Homer, de cette période qui sépare Pessah de cette fête justement de Shavuot. Hatseret, c'est donc la fin, il faut s'arrêter ouais, de compter. Et Yom HaBikurim, c'était donc un moyen, souvent, étant donné que les fruits commençaient à pousser, donc c'était le moment où on emmenait nos fruits à Jérusalem et on les offrait là-bas. On les mangeait.
C'est une fête agricole, Shavuot ?
C'est aussi une fête agricole, bien entendu. On est en plein dans la moisson, donc toutes les fêtes, elles sont en rapport avec l'agriculture. Ouais. Et donc, il y a clairement un rapport entre l'agriculture et la fête de Shavuot.
Alors, la fête de Shavuot, c'est dans les trois fêtes dites de pèlerinage, hein, que sont Sukkot, Pessah et donc Shavuot. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi écrit dans la Torah. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce conte du Homer, donc ce n'est pas une création, on va dire, des rabbanim, la fête de Shavuot.
Tout à fait, en fait, il y a un grand amalgame qui s'est créé, parce que le Homer, on le connaît que par cette période de deuil à cause de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, mais en fait, la fête du Homer, à une époque, c'était un conte qui était obligatoire, le lendemain de Pessah. Mmh. Ça fait couler beaucoup d'encre, justement, parce qu'on ne dit pas que c'est le lendemain de Pessah, mais on dit que c'est le lendemain du Shabbat, comme si Pessah était devenu un Shabbat. Et donc, il y a eu plusieurs disputes avec certaines franges du peuple juif qui voulaient impérativement que Shavuot tombe systématiquement un dimanche, parce que 50 jours après le dimanche, si on compte le lendemain du Shabbat. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais donc le conte du Homer, c'était un conte qui était systématique et obligatoire, une vraie préparation à cette réception de la Torah depuis le lendemain de Pessah. Le premier jour de Pessah, il n'était pas dans le compte, c'est une certitude. Le jour de Shavuot n'est pas non plus dans le compte, parce que c'est le 50e jour, c'est à la fin des 50 jours. Le 50e n'est jamais compté, parce que le 50e, on n'y arrive jamais. À cette 50e degré de sainteté, on n'y arrive jamais. Mais le conte du Homer est complètement indépendant. C'est un vrai conte de la Torah qui a été prévu de compter des jours et des semaines pendant 49 jours. On devait arriver depuis Pessah jusqu'à Shavuot.
C'est pas par rapport aux 49 degrés aussi d'impureté ?
Bien entendu, bien entendu.
Ça a un rapport.
Bien entendu, on sait très bien que malheureusement, à la veille de Pessah, avant qu'on devait sortir d'Égypte, le peuple juif était à un degré presque indélébile, où on n'aurait pas pu nous en sortir. Et donc, Hachem, il nous a fait sortir, on était à un degré donc de 49 degrés. Degré d'impureté, et on a gravi les échelons comme ça jusqu'à Shavuot pour arriver à être ce peuple qui mérite de recevoir la Torah le jour de Shavuot.
Alors, on l'a dit, c'est une grande fête, Rav Sebag, cette fête de Shavuot, et pourtant, il y a des petits minagim, enfin, si c'est un minagim, notamment celui de manger des plats lactés, des plats à base de lait. Et puis, on sait, parce qu'on le sait par d'autres rabbinim, qu'à chaque jour de fête, on doit manger normalement de la viande, qui est un repas un peu plus évolué. Pourquoi manger lacté ce jour-là? Ça représente quoi?
Alors, vous dites quelque chose de très juste. La Gemara, elle nous dit qu'il est très important de se réjouir à chaque fête. Vesamarta bechagecha, il y a marqué. C'est pour toutes les fêtes. C'est pas seulement, on a l'habitude de le chanter à Sukkot, Vesamarta bechagecha, mais c'est vrai pour tous les Yom Tov. Et donc, la Gemara elle demande Shabbat aussi, bien entendu. Mais Vesamarta, la Simcha, cette joie-là, elle est de mise spécialement pour les jours de fête. Et ces jours de fête, nous dit la Gemara, ça doit se passer avec du vin, ça doit se passer avec de la viande, surtout au temps du Beit Hamikdash, nous dit la Gemara. Et ça doit se passer, c'est vrai que c'était très contextuel, mais ça doit se passer avec des cadeaux aux enfants et des cadeaux aux femmes. Alors la Gemara, elle nous dit même qu'à Babel, on avait l'habitude d'offrir à nos femmes des habits très colorés, etc. Donc elle rentrait dans les détails des joies.
Habits au mari aujourd'hui.
Exactement, c'est un rappel au mari. On espère qu'ils auront le temps après l'émission de foncer pour acheter ce qu'il faut à leur femme. Et c'est très contextuel, bien entendu. On achète, en fin de compte, ce qui va réjouir notre maison. Et la Gemara, elle nous dit qu'il est très important de manger de la viande. Et la Gemara nous raconte, par exemple, qu'il y avait un rav qui s'appelait Rav Yosef, qui avait l'habitude, le jour de Shavuot, de manger un veau magnifique. Pourquoi ? Parce qu'il dit, je sais qu'en fin de compte, ce qui fait ma différence, ce qui a fait mes qualités propres aujourd'hui, c'est le fait que moi, contrairement à toutes les autres personnes autour de moi, j'ai accepté la Torah, je l'ai reçue. Et donc du coup, il voulait marquer le coup le jour de Shavuot en mangeant de la viande, une très bonne viande. Comme vous le dites, a priori aujourd'hui, on a l'habitude, on a pris les coutumes de manger un mets lacté. Ça n'est pas une coutume de rue, hein. C'est déjà écrit dans les livres, hein. Le Rama, le Rabbi Moshe Esserles.
C'est pas
Amidag. Non, ce que je vais expliquer, c'est que ce n'est pas une habitude. C'est pas sorti de n'importe où. C'est écrit déjà dans certains textes de Halakha qui nous invitent à manger des mets lactés. Et donc, cette invitation-là, elle revêt une dimension historique. Et elle revêt une dimension beaucoup plus profonde. La dimension historique, c'est que lorsqu'on a reçu la Torah, on a donc découvert qu'il y avait toutes les règles dont je m'occupe ici aujourd'hui à Strasbourg, qui sont les règles de la cacheroute. Et il nous a fallu quelques jours pour remettre en place ces règles de cacheroute. Il nous a fallu cachériser nos ustensiles, apprendre les us et coutumes de la shrita et de la cachérisation de la viande, etc. Ça nous a pris quelques temps. Et donc, du coup, les seules choses que l'on a pu manger le jour de Shavuot, juste après la réception de la Torah, très rapidement, ça a été les mets lactés. Il y a d'autres raisons qui sont invoquées. Mais moi, il y en a une que j'affectionne tout particulièrement, qui est celle qui, en fin de compte, va nous transmettre un message très profond de cette fête de Shavuot. C'est qu'en fin de compte, nous sommes aujourd'hui très enclins à faire des actions qui sont beaucoup des actions d'extérieur, un petit peu de vitrine. Et on se serait, un homme, il aurait peut-être voulu, il se serait dit, tiens, regarde, si c'est Shavuot et qu'il faut faire une grande fête pour recevoir la Torah, moi, je vais montrer à tout le monde combien est-ce que j'aime la Torah. Je vais faire un festin de toutes les viandes possibles et imaginables. Je vais montrer à tout le monde, je vais éclater la galerie. Je vais montrer à tout le monde combien est-ce que j'affectionne tout particulièrement la Torah. Nous disent nos sages, non. Tu ne vas pas pouvoir te montrer comme tu as l'habitude de le faire avec des festins de viande. Il va falloir que tu exprimes ton cœur, que ton cœur s'exprime, que tu transmettes du plus profond de ton être l'amour que tu portes envers la Torah. Et ça n'est donc pas quelque chose, un apparat que tu vas pouvoir montrer à tout le monde avec énormément de viande ou ce que tu as l'habitude de faire, mais c'est dans des nouvelles conditions qu'il va falloir que tu montres ton attachement à la Torah avec des mets lactés qui te prennent entre guillemets à contre-pied de tes habitudes de fête et de joie. Et donc ici, en fin de compte, ce qui s'exprime à travers cette coutume, c'est de montrer notre attachement à la Torah, mais de manière beaucoup plus sincère, beaucoup plus véritable, et pas avec les apparats habituels qu'on utilise toute l'année.
J'ai entendu une autre explication un jour d'un rabbin, dont je ne citerai pas, qui disait que le fait que ce soit le lait soit aussi la couleur blanche qui représente la Torah, la pureté.
Bien entendu.
On peut aussi rajouter cette explication.
Bien entendu, tout à fait. Il y a plusieurs explications, l'idée de la blancheur, de la pureté, de ce peuple qui a réussi à faire un travail incroyable de se sanctifier en 49 jours, cette préparation incroyable. Certes, on a été bien aidé. On est sorti d'Égypte, on a traversé la mer Rouge, on a eu les nuées qui nous ont beaucoup aidés, etc., qui nous ont protégés. Mais ça reste qu'il ne faut impérativement rendre compte du fait qu'ils ont accepté cette Torah avec beaucoup d'amour, beaucoup de pureté, beaucoup de sincérité. Lorsqu'ils ont énoncer cette fameuse phrase de Naaseh v'nishma, nous ferons et nous écouterons. Même Hachem en est étonné. Il se demande maintenant, mais qui c'est qui vous a dévoilé ce secret incroyable que les anges utilisent justement pour me plaire? C'est-à-dire cette abnégation totale, cette capacité de se soumettre de manière pleine et entière à ce Dieu unique en lui disant, écoute, nous allons écouter tout ce que tu dis, nous allons d'abord agir et ensuite faire. Donc cette pureté incroyable, ben, on la retrouve un petit peu dans ce lait blanc et dans cette nourriture d'enfant et de etc. Donc clairement, il y a d'autres explications et celle que vous avez soulevée est bien, bien ramenée par nos sages.
Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est effectivement quand on discute avec des rabbanim, on leur dit, mais finalement, c'est quoi la fête de Shavuot? Et le petit sondage que j'ai fait, ils m'ont tous répondu à la même chose, c'est justement le fait de recevoir la Torah. Est-ce qu'il y a une façon particulière de recevoir la Torah?
Alors, c'est une question très compliquée. Là, on est en train de nous demander le mode d'emploi.
Non, je vous demande de, pour vous, par exemple. C'est-à-dire quoi recevoir la Torah? Moi, je sais pas, c'est bien, être bien habillé, c'est bien mangé.
Bien
c'est,
entendu.
C'est quoi tout
non, ce que je veux juste dire, c'est qu'on imagine bien que pour une fête aussi importante que la réception de la Torah, il y a autant de manières de le dire qu'il n'existe de juifs et de rabbins. Donc, on peut commencer. Moi, maintenant, personnellement, je ne sais pas combien est-ce qu'on est dans mon cerveau, mais donc je vais vous donner plusieurs explications que l'on peut... Je raconte par exemple à mes élèves, j'ai raconté cette histoire qui est très connue. Mais cette histoire de Rabbi Yochanan, un homme très très beau, qui était en train de se tremper donc, dans le Jourdain. Et il était dans le Jourdain, il se trempait et il y a un brigand qui s'appelait Simon. Alors j'aime bien, pour mes élèves, j'ai un peu enjolivé ça, Simon le Brut.
D'accord.
Simon le Brut voit quelqu'un de très très beau dans le Jourdain en train de se tremper. Alors il se dit, à mon avis, c'est une très belle femme. Alors il court, il prend son élan et il fait un saut incroyable et il traverse le Jourdain. Donc c'était, on suppose, une petite rivière, mais quand même, c'était un saut assez incroyable. Il traverse comme ça, il fait un grand bond et il arrive de l'autre côté de la rive. Et là, Rabbi Yochanan, impressionné par cette force et ce dynamisme, il lui dit, mais quel dommage, Cheilach Leoraita. Il lui dit, c'est bien dommage que ta force, ton dynamisme et toutes tes convictions, tu ne les donnes pas dans la Torah. Et là, ce Simon le Brut qui se rend compte qu'en fin de compte, il n'a pas une femme, mais un homme devant lui, alors il dit, et toi, c'est quand même dommage d'être aussi beau et d'être enfermé entre quatre murs d'un Beit Hamidrash pour étudier la Torah toute la journée. Alors il lui dit, tu as peut-être raison, mais sache que j'ai dans la Torah quelque chose d'incroyable qui me procure une satisfaction incroyable. Alors il dit, très bien, et tu sais quoi? J'ai une sœur qui est magnifique, je suis prêt à te la présenter si par hasard tu es d'accord de venir écouter un petit peu les cours de Torah. Il se donne rendez-vous le lendemain pour étudier et après peut-être rencontrer la sœur. Et là, le Simon le Brut qui essaye de faire le chemin inverse, il saute et au moment où il essaye de sauter, il tombe dans l'eau. Et la Gemara demande pourquoi est-ce qu'il tombe dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara de nous dire, il avait déjà le fardeau, le joug de la Torah. Et là, la question que tout le monde se pose, c'est je comprends pas quelque chose. Il a juste accepté de prendre un rendez-vous avec un rabbin le lendemain pour étudier, et surtout qu'il l'a fait de manière très intéressée pour rencontrer sa sœur. Et quand même, on appelle ça le joug de la Torah. On s'attend un petit peu à ce que le joug de la Torah ressemble à quelque chose d'un peu plus conséquent que juste une acceptation d'un rendez-vous. Pourtant, nos sages nous disent que ça s'appelle recevoir la Torah. Et là, on apprend, en fin de compte, qu'il y a un grand mal dans notre société, mais qui a toujours existé, qui est...
Excusez-moi, je crois, parce que finalement, quand vous... Bon, c'est l'histoire de...
Rabbi Shimon, il devient Rabbi Shimon ben Lakish, voilà. Exactement.
Alors, l'idée, c'est que quand on regarde les fêtes de la Torah, on nous demande déjà d'avoir le joug de Dieu de la Torah, par exemple... À Rosh Hashanah, qui est le jour vraiment où on demande d'accepter Dieu, ça veut dire que bis repetitas à ce
alors, compte. Alors, chaque fête, elle va avoir sa caractéristique. Vous parlez de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le joug de Dieu. C'est accepter l'unicité de Dieu. L'acceptation de la Torah, alors c'est exactement ça que je vous avais envie de proposer, une première idée sur Shavuot. C'est qu'en fin de compte, cet homme, il a reçu le joug de la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a compris l'espace d'un moment. Qu'il y avait peut-être quelque chose de beaucoup plus profond qui le dépassait, qu'il ne comprenait pas. Accepter la Torah, c'est accepter de ne pas avoir la science infuse. Se dire qu'on a peut-être des bonnes intuitions, des bonnes idées, que parfois des domaines qu'on ne connaît pas, mais que, sur lesquels on a peut-être des envies de parler. Mais attention, comprends bien que tu n'as pas la science infuse et que tu t'es peut-être trompé. Accepte dans ta manière de le présenter aux personnes qui sont autour de toi. Accepte avec beaucoup d'humilité. Accepter la Torah, c'est accepter de se dire qu'il y a peut-être, et sûrement, en fin de compte, un texte de loi, un texte qui s'appelle la Torah, qui a beaucoup plus de connaissances que moi sur des domaines que je ne connais pas. Sur l'homme, sur la manière de fonctionner de l'homme, sur la nature, etc. Les us et coutumes, la Torah, elle nous a donné le mode d'emploi du monde qui a été créé par Hachem, et la Torah a été écrite par Hachem. Donc, une des premières visions que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui pour le don de la Torah, c'est qu'en fin de compte, apprendre avec beaucoup d'humilité, apprendre un petit peu à comprendre que nos certitudes d'aujourd'hui, eh ben, d'abord avec l'histoire, on connaît que les certitudes d'hier, eh ben, c'est pas celles d'aujourd'hui, mais apprendre surtout que nos certitudes, quand elles ne sont pas basées sur l'étude de la Torah, eh ben, ce sont des certitudes qui peuvent être balayées par la réalité, qui peuvent être balayées par Hachem lui-même. Et donc ici, ce Resh Lakish, ce Simon le Brut, qui va devenir Rabbi Shimon ben Lakish, en fin de compte, il avait accepté la Torah, non pas dans sa plénitude, bien entendu, il n'a encore rien accepté, il a juste accepté un rendez-vous. Mais il a accepté qu'il y avait peut-être une vision qui le dépassait, une vision qui était beaucoup plus grande, et cette acceptation, c'est déjà une grande partie de l'acceptation de la Torah. C'est-à-dire que, en 2021, si je devais donner un conseil, recevoir la Torah à Shavuot, eh ben ça va être accepter déjà que tu n'auras pas raison partout et tout le temps. Et qu'il y a sûrement la Torah qui peut t'apprendre encore énormément de choses et tous les jours on en découvre un peu plus. Ça c'est une première vision de l'acceptation de la Torah et de ce qui se joue un petit peu le jour de Shavuot. Il y a un deuxième point qui me semblait assez fort aussi lors de Shavuot, c'est que, vous savez, tout à l'heure, on a parlé du fait que les Bnei Israël, les enfants d'Israël, ils ont accepté la Torah avec grande volonté, ils ont dit « Naase v'nishma, nous ferons et ensuite nous écouterons ». Pourtant, on sait, il y a la Gemara, elle nous raconte, le Talmud nous raconte que, en fin de compte, au moment du don de la Torah, Dieu, il a soulevé la montagne, il leur a mis au-dessus de la tête, il leur a dit « Si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon, vous devrez mourir ». Et là, les commentateurs, ils s'énervent un petit peu. Mais pourquoi les forcer alors qu'ils avaient accepté la Torah avec tellement de bonne volonté? Et le Maharal de Prague, il nous donne une explication incroyable. Il nous dit, vous savez, lorsqu'une personne accepte quelque chose de son plein gré, eh ben, il se dit, c'est grâce à moi que la Torah, elle est sur terre, parce que je l'ai daigné l'accepter. Et là, à nouveau, ce serait un peu d'orgueil, c'est vrai. Mais c'est grâce à moi que la Torah, elle est sur terre. Or, on sait très bien que si nous n'avions pas accepté la Torah, le 6 Sivan, le jour de Shavuot, le monde serait retourné au tohu-bohu, le monde n'aurait eu aucune raison d'être. Nous dit le Maharal de Prague, lorsqu'un homme, eh ben, même s'il a accepté la Torah, il doit réaliser qu'en fin de compte, la Torah, ça n'est pas un choix. Ça n'est pas c'est pas comme une pomme. Si tu as envie, tu croques. Si tu n'as pas envie, tu ne croques pas. La Torah, c'est une fatalité, mais dans le sens noble du terme. Il n'y a pas de monde sans Torah, point. Accepter, vivre Shavuot de manière pleine et entière, c'est en fin de compte réaliser qu'il n'y a pas de monde possible sans Torah. Aujourd'hui, on voit par exemple monde...
Je prends le cas du Rav Sebag, il travaille à la Kashrout, quelqu'un de très pratiquant, etc. Vous avez accepté la Torah et les lois de la Torah. Vous n'avez aucune certitude non plus ?
Je n'ai aucune...
Certitude ?
Bien sûr que j'ai des certitudes. Et malheureusement, c'est tout le travail. C'est pour ça que je suis encore vivant, parce que j'ai encore du travail à faire. Mais bien entendu, on a des certitudes, mais ça veut dire avec quelle autonomie? Est-ce qu'on essaye d'avoir une autonomie totale, ou est-ce que souvent on essaye de se rattacher un petit peu au don de la Torah? Par exemple, notre cher ancêtre Yosef Hatzadik, il avait rêvé qu'il devait être un roi. Et donc, il se retrouve devant le roi, en fin de compte, Pharaon, qui lui raconte son rêve. Et il lui demande, est-ce que serais-tu capable de me révéler un petit peu son histoire? Qu'est-ce qu'il répond, Yosef? Pour une fois, il a la chance de parler à un roi. Il a maintenant la possibilité de faire en sorte de se réaliser son rêve qu'il a depuis tant d'années. Il lui dit, Ha'elokim yanet shelom paro. C'est Hachem qui va répondre et qui va te donner à toi, Paro, cette tranquillité, cette réponse que tu attends. Ça veut dire...
souvent, on dit grâce à Dieu, Baruch Hashem.
Exactement.
C'est pas une façon de dire on se remet à Dieu.
Exactement, bien entendu. Mais maintenant, c'est un travail de tous les instants. On a des certitudes, on a des a priori, très souvent, malheureusement, sur la Torah. On a des a priori sur les attentes de Dieu. On a l'impression que Dieu, il est un peu jusqu'au boutiste, quoi. Moi, je parle des fois dans la cache-route. Et dans la cache-route, des fois, je parle à nos partenaires cache-route. Dans les différents restaurants, etc. Ils me disent, attends, tu crois pas, t'exagères, on est là à chipoter, des fois sur une cuillère, où est-ce qu'elle est tombée, dans quelle marmite elle est tombée, dans quel machin, etc. Et à la maison, on est un peu jusqu'au bout, on a l'impression, écoute, ça remet en cause nos certitudes, on a l'impression qu'on va beaucoup trop loin. Mais en fin de compte, quand on étudie et quand on donne sa chance au produit, c'est un terme que je déteste un petit peu, mais c'est un terme très marketing, mais quand on donne sa chance au produit, on se rend compte combien est-ce qu'en fin de compte, il y a des choses incroyables qui se jouent, une compréhension et une perception des choses qui sont divins, en fin de compte. Eh bien, c'est le travail de chaque instant, de savoir avoir l'humilité de se soumettre au savoir divin, de savoir s'en remettre, bien entendu en évoluant, en avançant, en ayant des certitudes. Il faut jamais systématiquement se tourner vers un rabbin pour lui poser des questions. Il faut essayer, on va voir un rabbin quand on a des questions plus poussées, plus compliquées. Mais dans l'absolu, il faut se fier à soi-même, à son propre jugement et évoluer. La Torah, elle est faite pour nous, elle n'est pas faite pour essayer de vivre la vie d'un autre qu'on nous aurait imposé. Mais le travail à faire en amont, c'est le travail d'essayer d'avoir cette sincérité, d'avoir cette humilité, d'avoir cette volonté de réaliser en fin de compte qu'il n'y a pas de monde véritable qui va réussir sans cette idée d'Hachem, sans cette idée de Torah, cette idée de nous avoir forcé alors que le peuple juif avait déjà accepté, nous dit le Maharal de Prague. C'est pour bien insister sur le fait que un monde sans Torah n'existe pas, et donc on était obligé de voir que c'était, ça nous était imposé, que ça n'était pas forcément quelque chose que l'on avait voulu.
Gad Sebag, le rabbin, devait l'air des jeunes, justement, recevoir la Torah quand on a 20 ans, en 2021. Vous leur dites quoi à vos fidèles? Vous leur direz quoi dimanche soir?
Alors ouais, je vais leur parler, j'espère leur parler pas mal de fois, et donc je vais leur dire plusieurs choses. Mais si je devais résumer, hier en classe... Alors, je parlais avec, parce que je suis aussi prof à l'école Akiba. Mmh. Hier en classe, je me suis un peu énervé, entre guillemets, hein, avec mes élèves, pour leur faire comprendre qu'en fin de compte, si on devait avancer dans la vie, dans un point du point de vue de la Torah, ce serait d'accepter une fois, une bonne fois pour toutes, qu'il n'y a pas un Dieu qui un jour s'est levé et qui s'est dit, tiens, je vais aller embêter le peuple juif et je vais leur mettre, combien je leur mets? 500? Non, allez, c'était quoi? 613 mitzvot. Comme ça, on va bien leur casser les pieds. Mes jeunes, je leur ai bien expliqué qu'en fin de compte, accomplir les mitzvot et accepter la Torah, c'est avoir une chance inouïe. Avoir une chance inouïe, alors oui, ça peut faire hausser les sourcils à plus d'un. Une chance inouïe, c'est de nous parfaire dans tous les domaines de la vie. Un homme, moi par exemple, je raconte toujours cette histoire, avant j'habitais en Israël, et lorsque je revenais en France, parfois, j'allais à la boulangerie. Et je voyais des personnes qui achetaient leur sandwich et qui le mangeaient debout en payant. Alors qu'en Israël, dans le monde religieux, je m'étais habitué à voir des gens se laver les mains, s'asseoir, faire une bénédiction, etc. Et donc j'avais développé, malgré moi, sans même m'en rendre compte, que le pain, manger du pain, c'est important. Ce ressenti-là, c'est Dieu qui me l'a offert. C'est une chance inouïe, et c'est vrai que le pain, c'est important. Vous savez, on sait très bien tout ce qui s'est passé avant d'avoir du pain. Eh ben, il y a 6 mois de blé avec un agriculteur qui s'est tué la santé. Après des mois de moissonnage, ensuite on a moulu, ensuite on a pétri cette pâte, ensuite on a fait du feu, ensuite tout ce processus là incroyable qu'aujourd'hui, eh ben, on va juste à la boulangerie, on demande une baguette, on paye 1 euro et on sort. Tout ce processus là, si on prend conscience de chaque étape. Eh ben, on se rend compte qu'on est face à un miracle. Une baguette, c'est un miracle. Eh ben, la Torah, elle m'a donné le moyen de réaliser qu'une baguette, c'est un miracle. En m'exigeant de me laver les mains, en m'exigeant à m'asseoir avant de manger ce pain, et en m'exigeant à remercier Dieu à la fin d'avoir mangé ce pain. La Torah, elle m'invite, en fin de compte. C'est une invitation, une chance incroyable pour comprendre des choses, pour avoir une sensibilité accrue sur des domaines qui, a priori, sont devenus des choses normales, naturelles dans notre vie, mais qui, en fin de compte, n'en sont pas. Il faut qu'on réalise un petit peu la chance que l'on a. Le corona nous a un petit peu aidé là-dedans. On se rend compte que c'est une chance d'avoir une vie sociale, c'est une chance d'avoir la bonne santé, c'est une chance d'avoir des médecins, etc. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. La Torah, elle nous invite à avoir cette sensibilité accrue et incroyable sur tous les domaines de ma vie. Alors j'ai invité mes élèves justement à prendre à bras le corps tous les textes de la Torah pour comprendre un petit peu qu'est-ce que ça peut leur apporter dans la vie. Mais de pas imaginer qu'en fin de compte, oh là là, 613, c'est beaucoup trop, qu'est-ce que ça me saoule, mais Dieu, il aurait pu nous en donner une seule ou deux. Il m'a donné 613 chances de me parfaire, de comprendre les choses, d'avoir une sensibilité accrue et développée. Ça, c'est ça, accepter la Torah. C'est ça que j'invite tous les jeunes. Et c'est ça que je veux dire dans ma communauté aussi. J'invite tout le monde à réaliser combien, en fin de compte, 613 chances et non pas 613 commandements lourds à porter.
Merci Rabbin Gad Sebag. On rappelle que vous êtes responsable de l'office Vélère, l'office des jeunes. Vous êtes également superviseur de la casseroute auprès du Bâtiment du Barin de Strasbourg.
Merci
à
vous.
Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions et on vous souhaite un bon Shavuot.
Bon Shavuot à toutes et à tous.
יחד נעשה ונשמע, אמרו כאחד וברוך הוא